Je vous invite à ouvrir votre Bible dans 1 Timothée chapitre 6. On va terminer l'étude de cette épître, parce que les enfants rentrent aussi. Ça résonne un peu. 1 Timothée chapitre 6, et on va lire les versets 3 à 21. Allez, 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, il s'adresse à Timothée, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Ô Timothée, garde les dépôts en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. On a vu depuis quelques dimanches que Paul est structuré d'une certaine manière l'Église. On a vu qu'il avertissait aussi de ses faux docteurs, et là il revient dessus, on va en parler un peu. On avait vu aussi qu'il fallait de la doctrine pour avoir une bonne pratique, parce que si je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi pratiquer forcément, et donc il faut connaître la Bible pour pratiquer ce que Dieu veut. On avait aussi parlé des soins que les uns et les autres peuvent s'amener dans l'Église. Et là, il va aborder, j'ai appelé ça du mirage à la réalité, parce que c'est l'impression que ça me donne, que beaucoup de gens vivent dans des mirages, ont l'impression de vivre certaines choses, mais ce n'est pas la réalité. En tout cas, ce n'est pas ce que Dieu voudrait pour eux. Et beaucoup de chrétiens suivent ces mirages et ils sont dans une espèce de désert spirituel. Ils ont l'impression de vivre une vie spirituelle, mais bien souvent, ils sont aussi trompés par justement ces faux docteurs, ou peut-être même par eux-mêmes. Et on l'a vu un peu dans le psaume tout à l'heure, mais on se fait beaucoup d'illusions, mais où est-ce qu'on place notre espoir, nous, notre espérance? En qui? Vous m'inquiétez, là. En Dieu, j'espère bien. Ça me posait des questions, je suis au bon endroit. Oui, on met notre espérance en Dieu, mais bien souvent, et malgré nous, on les met aussi dans des choses bien plus fragiles que Dieu. Et on va un peu parler de cela ce matin. Dieu, lui, désire la simplicité de sa réalité, de vivre dans cette réalité. Et c'est comme cela, je crois, que le chrétien va s'épanouir. On va parler de quatre choses, les mirages de ces faux docteurs, il va revenir dessus. Puis les mirages de l'enrichissement, et puis je distingue les mirages de ceux qui sont déjà riches. Une petite distinction là, et puis voir un peu l'épanouissement dans cette réalité qui est Dieu au quotidien. Alors c'est curieux que Paul insiste tellement dans cette épître sur les faux docteurs. Il en a déjà parlé pas mal, hein, on en a déjà parlé, et revient encore une fois dessus. Ça peut être, il y a peut-être quelque chose de sérieux là-dedans. Et donc ces faux docteurs apportent des mirages, on pourrait dire, à travers leur enseignement. Hein. Alors ils semblent tellement séduisants au début. Ah, c'est des bons prédicateurs, c'est des gens qui disent des belles choses. Hein. Ça c'est le premier abord, et puis quand on commence à plonger un petit peu dedans, ben, généralement ils trompent les gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs qui vont toucher les points sensibles de tous les êtres humains. C'est le besoin d'argent, le besoin d'être en bonne santé, la guérison. Ça, c'est des besoins légitimes. Dieu n'est pas contre ça. Mais ils vont toucher ces petites cordes sensibles et c'est comme ça qu'ils vont appâter les gens, se faire de l'argent eux-mêmes. Il y en a qui se font beaucoup d'argent grâce à ça et ne guérissent pas forcément les gens non plus. Hein, c'est quand même triste. Mais ils sont séduisants, et voilà. Hein. Mais le problème, c'est comme dit Paul, leur doctrine est bien souvent injuste et fausse. Ils trompent, en fait, des gens qui sont vraiment sincères dans leur recherche. Hein. Quand on est malade, on cherche sincèrement à être guéri, ça c'est clair. Quand on est dans le besoin, on cherche sincèrement à être devant Dieu. Mais ces gens-là ben, vont les tromper et vont leur faire croire certaines choses. Et au final, ben, voilà. Il dit, ils ne sont pas attachés aux saines paroles de Christ. Ils enseignent selon leurs pensées, selon leurs idées. Ils sont même certains des fois que c'est Dieu qui leur parle. Hein. Il y en a qui disent « Dieu m'a dit que ». Le jour où vous entendez Dieu vous parler, arrêtez tout de suite, ce n'est pas Dieu qui vous parle, hein. C'est vous-même qui vous parlez. Dieu parle dans sa parole. Hein. Il ne parle pas en connexion avec moi, même si des fois notre cœur sent certaines choses, mais souvent c'est lié à ce qu'on a lu aussi dans la parole. Mais eux pensent que Dieu leur parle. Et ils disent des choses qui ne sont pas conformes à la foi. Ils arrangent en fait la Bible. Ils font une religion, un mix, tout ça pour arriver à leur fin. Et leur fin, c'est souvent l'argent. Gagner de l'argent au détriment de la foi des autres. Leurs objectifs et les effets aussi de leur enseignement, ils cherchent la gloire et ils veulent être connus. Il y a beaucoup de chrétiens qui commencent simplement, et puis au fur et à mesure, on commence à l'aimer, et puis la gloriole. Alors, évidemment, c'est tentant hein, d'être connu. C'est tentant d'avoir de la gloire, puisque c'est ce que cherche le monde. Mais Paul est en train de dire attention à cela. Il dit ils sont enflés d'orgueil. C'est intéressant, le mot en grec dit c'est s'élever en fumée, enveloppé dans la brume. Il y a une image de monter, on pourrait dire en gloire, mais en même temps, la brume, c'est quelque chose qui disparaît aussi, rapidement. Une belle image, je trouve, là, de ce mot. Ils sont enflés d'orgueil, ils savent tout, hein, mais en même temps, ils ne savent absolument rien. Ils aiment les questions oiseuses. C'est-à-dire qu'on va parler de doctrine, mais on va tourner en rond, on ne va jamais répondre. Surtout pas répondre. Ça ne va pas, parce qu'on va se rendre compte qu'on a tort, hein, bien souvent. Ils aiment les disputes, mais tout ça, évidemment, Paul dit que ça ne conduit absolument à rien. Ni à l'épanouissement du chrétien, ni à la connaissance de ce qui est vraiment, ce qui fait Dieu. Et le résultat, ben, c'est simple, l'envie. L'envie en grec, c'est plutôt la jalousie. Peut-être des fois, il y en a qui sont motivés par d'autres et ils sont jaloux qu'eux, ils ont du succès. Alors, ils ont envie d'aller devant. Hein, et ça a pour résultat les querelles, luttes, rivalités entre les uns et les autres, les calomnies, et le mot, c'est plutôt blasphème, parce qu'ils blasphèment Dieu, des fois avec des fausses promesses qu'ils font à certaines personnes. Ils insultent Dieu, on pourrait dire. Puis les soupçons, et puis plein de choses en fait négatives. Ces gens-là, finalement, n'apportent pas la paix aux chrétiens. Même si, d'apparence, au départ, ça semble si bon et si bien. Mais avec le temps, on se rend compte que ces chrétiens ne s'épanouissent pas du tout dans leur vie chrétienne. Dieu n'a jamais promis de guérir tout le monde. Parce qu'il l'avait promis, moi, je le demande tout de suite et je vais dans la rue et je guéris tout le monde. Hein. J'attends pas que les gens viennent dans l'église pour se faire guérir. Si j'ai ce pouvoir, moi, j'y vais. Hein. Je vais à l'hôpital tout de suite. Hein. Écoutez, soyons concrets aussi. Seulement, Dieu n'a jamais promis que tout le monde serait guéri. Ni l'apôtre Paul, ni ses amis étaient forcément guéris. Il y en a un qui était presque mort. Donc, c'est les tromperies. Mais Dieu peut guérir. On voit l'autre côté. Dieu est capable de le faire aussi. Eux désirent s'enrichir par l'évangile, puisqu'il dit que leur piété est une source de gain. Il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui. Alors, je ne veux pas taper sur quelqu'un en particulier, mais vous vous souvenez des indulgences. Le pape, à l'époque, il demandait de l'argent pour que vous puissiez sortir du purgatoire. Et donc, regardez Rome, c'est riche. Hein. J'ai envie d'y aller des fois là-bas juste pour gratter un petit peu. Tout l'or qu'il y a. J'imagine mal Jésus-Christ arriver là-dedans, dire « ça me convient ». Je ne vois pas du tout ça. Il n'y a pas que eux. Hein. Il y a Simon le magicien à l'époque hein, qui voulait absolument le don du Saint-Esprit. Il voyait faire les autres, les apôtres, et il voulait faire pareil parce que quelque part, chercher les pesos, n'est-ce pas? Puis il y a plein de faux docteurs aujourd'hui qui démontrent cela, que on est chrétien et finalement on fait ça pour un gain personnel. Ce qui était intéressant dans l'Église primitive, c'est qu'il y avait des usages. Je ne sais pas si vous connaissez la Didaké. C'est un petit livre que les chrétiens avaient écrit au début. Et ils avaient des petites coutumes, enfin pas des coutumes, plutôt des règles de vie. Et là, en parlant des faux docteurs, je lis simplement, c'est intéressant. Hein. En ce qui concerne les faux docteurs, ils disent si donc quelqu'un vient et vous enseigne tout ce qui vient d'être dit, recevez-le. Seulement, si ce docteur se dévoie et vous donne un autre enseignement de manière à renverser celui que vous avez reçu, ne l'écoutez pas. D'autre part, s'il enseigne de manière à confirmer la justice et la connaissance du Seigneur, recevez-le comme le Seigneur. Concernant les faux apôtres et les faux prophètes, quant aux apôtres et aux prophètes, agissez ainsi selon le précepte de l'Évangile. Que tout apôtre venant à vous soit reçu comme le Seigneur. Mais il ne restera qu'un jour, deux s'il en a besoin. S'il reste trois jours, c'est un faux prophète. Comprenez l'idée, c'est qu'il cherche un intérêt quelque part. En partant, que l'apôtre ne prenne rien, sinon le pain suffisant pour attendre l'endroit où il passera la nuit. S'il demande de l'argent, c'est un faux prophète. Alors, pas d'égaliste non plus à ce point-là, on est bien d'accord, 3-4 jours. Mais ils avaient déjà discerné qu'il y avait des gens qui venaient simplement pour se faire de l'argent. Et ils avaient la sagesse de se fixer des règles. Bon, après, c'est à nous aussi de fixer nos règles, hein, vis-à-vis de ces personnes. La réalité sur l'enseignement, hein, quand on voit ces super faux docteurs d'aujourd'hui qui annoncent la guérison, la prospérité, etc., la Bible nous dit quand même qu'avant de vouloir enseigner, il faut prendre les choses au sérieux. On ne vient pas devant et on ne parle pas de Dieu comme cela, il faut se former. À l'époque, moi, quand j'étais pas encore pasteur, je voulais dire, on apprend tout seul, on apprend en lisant la Bible. Hein. Après 3 ans d'institut biblique, je vous garantis que j'avais envie d'en faire 3 ans de plus. Ils n'ont pas voulu là-bas, je ne sais pas pourquoi. Mais... si on va enseigner, il faut quand même se former, sans forcément aller à un institut, mais c'est quand même une responsabilité. Et je pense que ces faux docteurs, des fois, n'imaginent même pas être un jour devant Dieu et devoir rendre compte de ce qu'ils disent, d'avoir trompé les gens. Et ça va être terrible pour eux, ça va être triste même pour eux. C'est une responsabilité. Le véritable enseignant, d'après ce que dit Paul, hein, il ne cherche ni la gloire, ni le gain. Il le fait comme la bonne nouvelle est, par humilité ou gratuitement. Après, évidemment, la Bible dit aussi qu'il faut rémunérer celui qui travaille, mais à la base, il le fera de façon très humble et avec aucun gain dans sa tête. Hein. Le plaisir est simplement de partager la parole de Dieu et d'annoncer la bonne nouvelle. C'est tout ce que le Seigneur nous a demandé, pas plus. Donc, Paul insiste encore sur ces faux docteurs et je pense qu'aujourd'hui, il s'arracherait les cheveux à voir tout ce qu'il y a dans ce monde évangélique. Ils divisent de plus en plus. Hein. Mais tout ça, c'est des mirages. Dieu veut qu'on soit enseigné par la saine doctrine. Ensuite, il s'adresse à ceux qui voudraient s'enrichir. Vous aimez l'argent? Et non, personne ne répond. Hein. C'est un mirage, l'argent. Enfin, on se comprend bien, hein, je suis comme vous. Hein. Mais on ne parle pas de celui qui gagne sa vie, parce qu'il faut gagner sa vie, et le Seigneur le demande lui-même, si tu veux manger, travaille. Mais c'est le mirage de « j'en veux un peu plus » pour mieux vivre, à ce qui paraît. Mais est-ce qu'il n'y a pas des conséquences, hein? On pense souvent « si j'ai plus d'argent, j'irai mieux ». Plus mieux, on va beaucoup mieux quand on a plus d'argent, moins d'inquiétude. On peut s'acheter une belle maison, une belle voiture. Après, on se rend compte que ça coûte très cher, parce qu'il y a le foncier qui débarque, il y a un tas de choses qui arrivent. Mais vous dites non, mais au fond de notre cœur, c'est bien implanté. Si j'ai un peu plus, ça va quand même mieux. Alors le un peu plus, ce n'est pas le revenu de base, hein, c'est vraiment beaucoup plus. Hein. Et souvent, c'est plutôt de la vanité, c'est de l'illusion, c'est un mensonge qu'on est en train de se faire. Alors forcément, si je veux un peu plus, ça va que je travaille un peu plus. Je ne rappelle quelqu'un, ça d'ailleurs. Alors on va s'investir davantage, et puis à un moment, je vais tellement travailler pour avoir un peu plus que finalement, j'ai plus le temps pour ma famille, j'ai plus le temps pour le Seigneur. Et finalement, bah, je perds ce que je gagne. C'est peut-être plus important, la famille et la relation avec Dieu. Puis ça a conduit même certains à la tentation, dit Paul, au piège, à des désirs insensés, pernicieux, et finalement à la ruine. Il y avait une fois une histoire comme ça d'un homme qui servait dans l'église, et à un moment, sa société a commencé à marcher de plus en plus, puis il a commencé à implanter plusieurs sociétés, etc., et au point qu'à un moment, ben, il ne venait plus à l'église, il ne servait plus à l'église, et puis il allait voir le pasteur un jour, et il dit « Seigneur, pasteur, priez pour moi, parce que voilà, ma vie est difficile, maintenant j'ai du mal à venir à l'église. » pasteur de prier, « Seigneur, ruine cet homme, enlève-lui toutes ses entreprises et qu'il ait juste le minimum pour vivre tout simplement. » Alors, mais c'est ça en fait, c'est exactement ça. C'est bien d'avoir beaucoup de choses, mais à un moment, ça rompt la relation avec Dieu et le résultat n'est pas très beau. Il y a un équilibre à avoir. Le résultat, hein, ça oblige à faire des concessions. Je vais sacrifier ma vie spirituelle, voire pour certains l'abandonner. La Bible nous dit que nous n'avons rien apporté dans le monde et on repartira sans rien. On est venu nu, on repartira tout nu. Le compte en banque, il restera sur la terre. Votre maison, elle restera sur la terre. Tout ce que vous possédez restera tout simplement sur la terre. Et peut-être qu'à la fin d'une nuit, on va se dire quand même, oh, on a bossé comme des malades et finalement tout ça, c'est futile. Alors, il faut travailler, on est bien d'accord, hein, mais on s'entend bien. Parce que la vraie richesse, elle est vraiment en Dieu. Et quand on se confie en Dieu, on récupère sa valise. J'avais cru qu'il allait parler de sa femme, moi. Bon, qu'il avait oublié sa femme, mais bon. La réalité de l'argent selon Dieu, c'est que la vraie richesse se trouve en Dieu. Par notre foi en Dieu, nous trouvons une vraie richesse. Et il faut savoir s'en contenter. Pas toujours simple de se contenter de ce que Dieu me donne au moment où il veut me donner. Hein ? Il y a des moments où Dieu bénit ce qu'on fait, et puis il y a des moments où il retient. Et là, on râle un petit peu en disant « Oh, oh, qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Okay, pourquoi tu ne me bénis pas à ce moment-là ? » Mais il faut savoir se contenter de ce que Dieu me donne. Et cette richesse, en plus, est éternelle. Ce que j'ai sur la terre, c'est futile, ça va passer. Par contre, la richesse que j'ai en Dieu, c'est quelque chose qui va durer pour l'éternité et qui est bien meilleur et qui conduit aussi à m'épanouir spirituellement. Gagner beaucoup de fric, ça ne m'épanouit pas. Absolument pas. Ça réjouit mon banquier, mais pas plus. Mais trouver en Dieu une vraie richesse dans ma vie, apprendre à se contenter de ce qu'il me donne, et des fois, il donne beaucoup. On peut s'en contenter, quand il donne beaucoup. Il bénit parfois. Et ça, ça épanouit tout simplement le chrétien. Mais pas lui, il est raide quand même. Hein. Le contentement, c'est la nourriture et le vêtement suffisent. Fini la Xbox, l'iPad, la télé, la maison. À ce qui paraît, on peut se contenter de la nourriture et du vêtement. Vous êtes prêts à ça? Il y a des pays qui vivent comme ça. Et nous, on râle. Parce qu'on n'a rien. Ah, j'ai pas la dernière iPhone. Hein. Tout faire pour gagner ça. Mais hein, on ne se rend pas compte des fois. Je me souviens quand on était allé en Bulgarie, ça nous a calmé un petit peu. Hein, on pense à Joël hier. Mais on ne se rend pas compte qu'en fait, on ne se contente pas de ce que Dieu voudrait pour nous. Et on veut toujours un peu plus. Et pourtant, Dieu bénit la France. Hein. Et les Français, qu'est-ce qu'ils font ? Ils râlent. Ils n'ont jamais assez. Jamais assez. Et on est Français. Hein. On est dans le lot. Paul dit qu'il faut être content de ce que l'on possède. C'est s'arrêter un moment et regarder tout ce que j'ai plutôt de regarder tout ce que je n'ai pas. Parce que quand on regarde tout ce que l'on a, c'est déjà pas mal, je trouve, par rapport à beaucoup de gens dans ce monde, et particulièrement en France. Et quand je m'arrête et que je regarde ce que j'ai à ce moment-là, je crois que ça rend heureux. Et ça pousse forcément à la reconnaissance et de dire « Seigneur, merci, j'ai un toit, j'ai à manger à midi, c'est quand même pas rien. Hein. » Alors pour nous, c'est tellement banal, mais c'est pas rien pour d'autres personnes. Et si j'arrive à m'arrêter, à regarder seulement ce que j'ai, et bien là, je serai reconnaissant et forcément, je vais m'épanouir. Si je veux m'enrichir, ça va forcément à un moment briser ma relation avec Dieu et peut-être même avec ma famille. Par contre, le Seigneur nous dit, tu dois travailler, mais tu dois te contenter de ce que tu as, mais c'est comme ça que tu vas t'épanouir, pas plus ni moins. Et puis, il parle de ces riches, le mirage de la richesse, de ceux qui sont déjà riches à ce moment-là. Alors, il ne parle pas de ceux qui veulent s'enrichir, il parle de ceux qui ont déjà beaucoup d'argent. Il y en a qui ont de la chance, hein, Inès, ils ont un compte en banque blindé, et voilà. On est jaloux des fois, mais bon. Il ne condamne pas la richesse, Paul, ni le Seigneur. Il a permis qu'il y ait des pauvres, et il a permis qu'il y ait des riches. Mais attention à la manière d'agir. Il met simplement en garde contre les richesses et la manière de les utiliser. On se rend compte qu'on est dans un pays riche, nous. On râle beaucoup, hein, mais on est dans un pays riche quand même. Et quelqu'un, un pasteur, disait « J'en ai entendu des centaines de confessions et de tout acabit, parfois compromettantes au plus haut chef, le vol, le crime, l'adultère. Et pourtant, durant 40 années d'itinérance, je n'ai pas trouvé sur ma route un seul chrétien qui osait me dire « Je suis attaché aux richesses et je dois reconnaître mon avarice. » Jamais personne ne confesse cela, et pourtant on est tous un peu comme cela. savoir s'arrêter et dire à Dieu, c'est vrai que bah, j'ai toujours envie de plus. Alors, quand je suis riche, c'est que je veux garder cette richesse parce que pour moi, c'est ma sécurité. On croit que c'est une sécurité, on croit que c'est notre stabilité que d'avoir de l'argent. Paul a vécu des hauts et des bas, mais Dieu s'en est toujours occupé, d'une manière ou d'une autre. Alors, on ne va pas tous vivre la vie de Paul, hein. Mais cette sensation de maîtriser sa vie parce que j'ai de l'argent. On n'est pas comme ça, des fois. Quand j'ai de l'argent, ça va, tout va bien. J'ai l'impression que ma vie se passe tranquillement. Alors, le problème pour les riches, c'est que pour certains, tellement ils sont sûrs d'eux, ils vont devenir hautains. Moi, je suis riche. À force, on devient trop sûr de soi. On oublie complètement Dieu. Et ça arrive même parfois aux chrétiens, hein, qui font avec leur richesse un peu ce qu'ils ont envie et oublient Dieu derrière. Et forcément, si je suis sûr, si j'ai de la stabilité, si tout va bien dans ma vie, vous croyez que vous avez besoin de Dieu ? On crie à Dieu quand on n'a rien, généralement quand on est malade, quand tout va mal, mais quand on a absolument tout, la santé, la richesse, etc., Dieu, pas besoin. Bon, souvent Dieu fait des petits croche-pattes pour qu'on se souvienne qu'on a besoin de lui. Mais aucun besoin de Dieu si j'ai absolument tout dans ma vie. Alors, c'est une sécurité, comme on l'a dit, mais c'est des richesses qui sont incertaines. Parce que si je veux baser ma vie sur les richesses, ben on le sait, c'est absolument fragile par rapport à Dieu, qui est absolument solide et fiable. Hein. Et puis, tout vient de Dieu. Votre maison vient de Dieu, votre travail vient de Dieu. Tout ce que vous possédez, c'est Dieu qui nous l'a donné. Mais Dieu, et vous vous souvenez de Job, peut aussi tout reprendre. Tout reprend, jour au lendemain, si on est un peu trop fier, si on est peut-être trop orgueilleux, pour simplement nous rappeler qu'il n'y a pas que l'argent dans notre vie, que le fondement, ce n'est pas le fric, c'est Dieu normalement. Et la sécurité, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas mon compte en banque, c'est Dieu ma sécurité, normalement. Mais il faut passer par la misère peut-être pour comprendre ça, avant de dire oui, je suis d'accord avec. Si on vous enlevait tout ce soir, à mon avis, ça fait réfléchir quand même, hein. Réfléchir. Donc, Paul veut simplement dire à ses riches que maintenant, au lieu de vivre dans le mirage, dans l'impression que vous pouvez vous appuyer là-dessus, voyez la réalité de ce que Dieu voudrait et dit que les riches doivent être riches en bonnes œuvres. Dieu vous a confié de l'argent, c'est pas pour que vous le gagniez et vous fassiez prospérer. Alors, il faut évidemment vivre, mais il voudrait qu'ils investissent cet argent pour l'œuvre de Dieu. Vous imaginez si vous avez 1 million sur votre compte en banque et vous partez au ciel, à quoi ça sert ? Ça aurait pu servir pour une église. Bâtir une église, bâtir ci ou ça, des œuvres missionnaires. Il y a un tas de choses à faire. Hein. Je connais des églises qui ont des millions sur leur compte en banque, mais ça sert à quoi ? Ça sert à rien. Envoyez-moi 500 000 euros, là, comme ça, on peut acheter le bâtiment. Hein. Alors, on va faire un petit bout, là. Mais Dieu a confié les richesses aux riches, c'est pas pour les garder, c'est pour les faire travailler, mais pour sa gloire, évidemment. Et il demande à ces riches d'être libéral, généreux, d'être prêt à partager ce que Dieu leur a confié. C'est bien dommage d'amasser pour quelque chose qui ne sert à rien, finalement. Tout ce que nous possédons vient de Dieu. Rentrez tout à l'heure à la maison, regardez votre écran plat, votre fauteuil, votre maison, et dites merci Seigneur parce que c'est toi qui me le permets, c'est toi qui me l'as donné. Alors j'ai travaillé, certes, mais c'est quand même Dieu qui m'a aussi donné le travail, qui parle au patron peut-être de temps en temps pour dire garde-le, ou qui nous fournit du travail à droite et à gauche. Tout nous vient de Dieu, il nous le prête. Pour certains, ils ont plus parce qu'il a un but avec eux. Mais pour chacun d'entre nous, normalement, nous sommes censés aussi partager un peu ce que Dieu nous a donné. Partager le pain, un repas, je ne sais pas. Puis une quatrième chose qu'on voit dans ce texte, c'est que le chrétien doit vivre dans des réalités, pas dans des mirages. Une généralité. Hein. La réalité de Dieu, enfin, vivre vraiment avec Dieu, c'est fuir en fait tous les mirages qui attristent l'homme. Et Timothée, appelé par Paul, à fuir les choses du monde, hein, ce que le monde propose. L'argent, l'orgueil, la gloire, beauté et compagnie. Hein. Tout ça, c'est le prince de ce monde qui met en marche toutes ces choses-là. L'argent, c'est pas de Dieu. L'orgueil, c'est sûrement pas de Dieu. La gloire, oh Dieu, il n'en veut pas du tout. Et c'est pas notre but dans notre vie. Mais c'est que ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Vous êtes quelqu'un de bien si vous avez de la gloire, de l'argent, et c'est ça. Hein. Mais oui, mais regardez la télé, c'est ça. La télé-réalité, tous ces machins. Le problème, c'est que évidemment, tous ces gens placent leur espérance dans ce qui est fragile, futile et éphémère. Eux ne le savent pas. Il faut se convertir pour le comprendre. Mais souvent, tous ces gens qui ont eu la gloire pendant un moment sont oubliés et partent des fois en dépression, voire se suicident. Waouh, la gloire, c'est bien. C'est triste quand même quand on y réfléchit. Timothée, lui, est appelé homme de Dieu. Il dire ça à tout le monde, homme de Dieu, femme de Dieu. Et ça signifie qu'il a confiance en Dieu et qu'il se contente de Dieu. Si je me dis homme ou femme de Dieu, ce n'est pas avec tout mon argent que je vais dire être un homme ou une femme de Dieu. C'est simplement parce que je me contente et que j'ai confiance en Dieu. Et quand j'ai confiance en Dieu, je sais aussi qu'il va prendre soin de moi, que je n'ai pas besoin de courir après l'argent. Lui, dans le travail évidemment, mais lui va m'aider pour vivre et avoir ce que j'ai besoin. C'est ça, être un homme ou une femme de Dieu. Le chrétien s'épanouit dans la réalité de la foi et non dans les mirages. Lui, il recherche, alors il demande à Timothée, mais je pense qu'il le demande à chacun d'entre nous, recherche la justice, la piété, la charité, la patience, la douceur. Vous avez tout ça déjà ? Est-ce qu'on a tout ça ? La patience ? Quelqu'un peut dire qu'il est absolument patient ici ? Il y a du boulot encore, hein ? Surtout si on devait perdre tout ce que Dieu nous a donné et attendre des mois et des mois que Dieu avait changé peut-être d'avis, hein ? Un peu comme Job. Lui, il a pas râlé, il a accepté. Et en plus, il était malade, le pauvre. Mais Dieu veut qu'on vive dans cette réalité-là. Et cette réalité, elle est basée sur des valeurs stables, productives, j'ai envie de dire, hein, on voit un peu le financier, et divine en même temps. Quand on s'appuie sur Dieu, c'est solide. Quand on s'appuie sur l'argent, c'est très fragile. Et de toute façon, vous le verrez bien un jour. Puis la réalité du combat aussi de la foi, nous parle Timothée, enfin Paul parle à Timothée, hein, il dit combat. Il y a une lutte dans la vie chrétienne. Et le mot combat en grec, c'est entrer en lutte avec des adversaires. Ça veut dire que dans ma vie chrétienne, il y aura des choses qui vont venir m'embêter d'une manière ou d'une autre. C'est pas forcément des gens. Il y a un combat avec l'argent déjà. C'est un sacré adversaire, surtout dans un pays riche. Et il dit à Timothée de lutter contre ses adversaires, de s'efforcer d'obtenir la victoire en fait vis-à-vis d'eux. C'est pas facile de combattre. C'est pas facile d'être un chrétien et de combattre. De combattre le bon combat, et le bon combat évidemment c'est de suivre Dieu, pas l'argent, ni les faux docteurs, ni la gloire, etc. Parce qu'à la fin, de toute façon, c'est Dieu qu'on va rencontrer, c'est pas notre banquier. Et pour saisir la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, hein, c'est vivre en conséquence de que ce qu'on a acquis. Quand je me suis converti, mon but, c'était pas de gagner de l'argent. Alors, il faut vivre, on est d'accord, mais mon but c'est rencontrer Jésus-Christ un jour dans le ciel, être face à face avec lui. C'est ça qui me motive dans ma vie chrétienne, normalement, et qui motive aussi mon combat. Et on a fait une confession, on pourrait dire, devant tout le monde, au moment où on s'est fait baptiser, ou au moment où on a donné notre témoignage. On s'est engagé avec le Seigneur. Et c'est bien de s'en souvenir de temps en temps, parce que, au départ, dans la vie chrétienne, on y va, hein, on est à fond, et puis 5-6 ans après, il y a des petits problèmes qui débarquent, puis bon, chômage, puis difficultés, peut-être je perds quelqu'un, et on se laisse un petit peu aller, mais au départ, j'avais dit, je veux marcher avec le Seigneur, dans les bons et dans les mauvais moments. Je veux lutter jusqu'au bout. Et c'est le Seigneur qui me porte en plus, donc c'est que je peux aller jusqu'au bout. Il parle encore de la réalité que Dieu et Christ sont témoins de notre vie. Hein. Il dit que le chrétien est devant Dieu. Alors des fois, dans ma vie, j'ai l'impression d'être devant Dieu quand on est à l'église, quand on fait nos petits moments de prière, mais on est devant Dieu au travail, on est devant Dieu quotidiennement, hein, je ne sais pas si on le réalise, et que si je suis devant Dieu, eh ben je sais qu'il est là, qu'il voit ce que je fais, comment je réagis, ce que je pense, hein, et ce Dieu est là et il me donne tout ce dont j'ai besoin, mais il peut aussi reprendre tout cela. Mais je suis devant Dieu et je dois en avoir conscience. Si on oublie ça, c'est bien dommage, parce qu'on on laisse passer un tas de bénédictions, on pourrait dire. Marcher avec Dieu au quotidien, dans mon travail, à l'école, là où je suis, savoir qu'il est à côté de moi, c'est quand même sympa, non ? Et ça sort de situation à la valise. Hein ? Eh oui. Alors, des fois, il ne permet pas qu'on récupère la valise. Hein, mais bon, après, tu as eu de la chance. Tu étais trop bon. Mais Dieu est là. On est devant lui. Et il dit aussi qu'on est devant Christ. Et il parle de ce Christ qui a confessé sa royauté devant Ponce Pilate, hein, et qui a confessé être le roi des rois avec un royaume éternel. Alors là, ce roi des rois, avec ce royaume éternel, qui est Dieu aussi, finalement, c'est toute ma sécurité. C'est ce qu'il est en train de dire. Tu es devant Dieu, tu es devant Christ. Ne cherche pas dans l'argent. Tu as ta sécurité, tout simplement, en Jésus-Christ. Et lui peut absolument tout. Vous voyez les témoignages, hein, il y a des choses absolument extraordinaires que Dieu a fait quand des gens étaient dans le besoin. Mais évidemment, il faut avoir conscience qu'il est là. Il faut avoir conscience qu'il faut prier et lui demander. Et cela nous pousse forcément à vivre une vie pieuse. Si je sais que Dieu me voit, me regarde au quotidien, voit mes pensées, ben, je n'ai pas envie de vivre n'importe comment. Je veux vivre une vie pieuse, garder le commandement, comme il dit. C'est obéir à tout l'évangile. J'insiste sur le tout. Parce que souvent, on ne connaît pas tout l'évangile, ou toute la Bible. Et donc forcément, on va suivre une partie, on va dire, de la Bible. Puis des fois, ben, dans des confessions à droite et à gauche, j'entends des gens qui disent « Ah, ça, il ne faut pas le faire. » Ah ouais, d'accord. Ben, forcément, ils ne connaissaient pas toute la Bible. Donc, garder tout le commandement, c'est obéir à Dieu dans sa totalité, et c'est le suivre pleinement. Il dit de vivre sans tâche. Intéressant le mot, c'est, il parle d'immaculé. C'est quand même pousser la chose assez loin. Vivre sans tâche et sans reproche, parce que Paul voulait à l'époque, et lui-même, et que Timothée ait un témoignage irréprochable devant les uns et les autres. Ça ne signifie pas qu'on n'est pas encore pécheur, ça ne signifie pas qu'on ne chute pas, mais si je chute, je peux aussi être irréprochable dans le sens où je demande pardon au Seigneur et je me relève et je marche avec lui de nouveau. Mais avoir conscience que Dieu est là, vit avec moi, à mes côtés, ben c'est ma sécurité. Et puis la réalité aussi que Christ revient bientôt, il le dit, le retour de Christ devrait nous motiver. Ça vous motive de savoir que Jésus va bientôt nous prendre ? Oui, mais toi, t'es ressuscité déjà, c'est pas la même chose. Ouais. C'est bien dommage que ça ne fasse pas notre joie et notre espérance, mais vraiment au quotidien. Ah oui, vous allez dire, Paul, il y a 2000 ans, il en avait parlé, il n'est toujours pas venu, le Seigneur. Mais bon, je crois qu'on est quand même plus proche que Paul, largement vu les événements. Mais un jour, Dieu le manifestera et ça devrait motiver ma vie chrétienne. Et puis, si Jésus revient, s'il doit venir bientôt, ça sert à quoi de s'enrichir ? Honnêtement, vous comprenez l'idée, hein ? Si vraiment je crois que Jésus vient bientôt, je vais vivre simplement avec ce que le Seigneur me donne, plutôt qu'aller faire des gratte-ciels ou je ne sais pas quoi. Hein ? Parce que moi, j'ai plutôt envie d'investir dans le ciel que je vais bientôt rejoindre, et peut-être plus rapidement que je le crois, alors que je perds mon temps souvent à bâtir dans ce monde des choses qui finalement vont disparaître. On perd beaucoup de temps. Si on réfléchit un petit peu, on perd beaucoup de temps, hélas. Et puis soyons prêts à partir sans le coffre-fort, parce que c'est lourd un coffre-fort, hein, et si le Seigneur veut nous enlever là, je vais avoir du mal à partir là-haut. Enfin, le Seigneur fait grâce. Hein, mais l'idée c'est simplement, est-ce que je veux vivre ma vie chrétienne en souffrant pour l'argent, parce que c'est une souffrance quelque part, ou est-ce que je veux vivre ma vie chrétienne pour la gloire qui m'attend ? Pas la même chose. Alors il y a une souffrance aussi dans cette gloire céleste peut-être, mais elle est quand même plus paisible, plus agréable, et elle porte des fruits surtout au bout. Hein. Il y a deux manières de vivre. L'argent, je vais souffrir, et comme Dieu nous le demande, je souffre, mais c'est positif, c'est quelque chose qui est investi dans le ciel. Il vaut mieux souffrir de cette manière-là, je crois. Et quand je souffre de cette manière-là, Dieu a dit aussi qu'il va pourvoir à tous mes besoins. Est-ce qu'on le croit ? Pas eu ma bouteille de coca aujourd'hui. Que Dieu se disait, il faudrait peut-être arrêter le coca. Hein. On se comprend. Des fois, Dieu ne permet pas certaines choses. C'est qu'il veut aussi nous apprendre à avoir foi. Hein. Vous savez, la foi, on croit l'avoir, c'est au moment où on n'a plus rien qu'on se dit, ah, c'est ça la foi. C'est bizarre. Mais je pense que Dieu veut nous apprendre à rester dépendants de lui et à trouver en lui cette sécurité. Vivre dans la réalité de Dieu, loin des mirages du diable, parce que c'est le diable qui fait ses mirages, eh ben ça rend tout simplement le chrétien heureux. Si peut-être dans ma vie, je ne suis pas épanoui ou pas heureux parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est tout simplement peut-être parce que je vis avec des mirages. Or là, on parle de l'argent, mais il y a une tonne de mirages où j'ai peut-être mal compris certaines choses de la parole ou de ce que Dieu veut pour moi dans ma vie. Et finalement, un mirage, ça trompe. Hein. Je ne sais pas si vous êtes dans le désert déjà, mais enfin, vous connaissez. Hein. Vous croyez voir quelque chose. Hein. C'est dans Tintin, j'aimais beaucoup Tintin. Mais... Il croyait voir quelque chose, le capitaine Haddock, mais en fait, il n'est pas touché. Alors que Dieu, lui, est une réalité bien claire qu'on peut toucher, saisir au quotidien. Et évidemment, lui ne nous trompe pas comme le diable au bout. Pour terminer, finalement, Paul dit, hein, verset 20, « Ô Timothée, garde le dépôt. » Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait le souligner dans notre Bible, l'entourer, le marquer. Garder le dépôt, c'est simplement se souvenir que nous avons à d'abord comprendre ce qu'est la saine doctrine, ce que la Bible nous dit, à l'assimiler, à pouvoir la défendre, comme on l'a vu dans cette épître de Timothée, et évidemment, ensuite, à pratiquer cette saine doctrine. Alors, comment faire ? Ben, Paul dit, hein, en vivant dans la réalité de Dieu et non dans les mirages de ce monde et de ces faux docteurs qui veulent apporter de fausses choses. Les mirages, c'est une joie passagère. La réalité de Dieu, c'est une joie éternelle. Ça commence aujourd'hui, mais ça durera pour l'éternité. Et notre joie aujourd'hui, on va dire de terrestre, va être carrément amplifiée, je crois, une fois qu'on va être transformé, quand il n'y aura plus de péché, quand il n'y aura plus de soucis, quand il n'y aura plus de chômage, quand il n'y aura plus rien, quand on sera dans le ciel. Vous imaginez la joie qu'on va avoir. Ça me donne le vertige un peu quelque part. Mais on peut déjà anticiper cette joie aujourd'hui, parce qu'on a un pied dans le ciel, à ce qui paraît. Pour nous qui sommes convertis, évidemment. On a un pied dans le ciel, et ça, ça doit nous réjouir. Oui ? Ouais. Je suis sûr que je vous donnerai 1 million d'euros, il y aurait plus d'éclat de rire. Hein. Ça doit nous réjouir, évidemment. Dieu veut notre bonheur. Et ça, on l'oublie aussi souvent. Dieu veut qu'on soit heureux, que ce soit dans les bons moments, dans les mauvais moments. Il sait, on doit savoir qu'il est là, et il veut notre bonheur. Mais pour être heureux, il faut conserver sa parole. Pour conserver sa parole, il faut la connaître. Je suis désolé, mais il faut la connaître. Et puis, quand je l'ai connue, forcément, je vais savoir quel est le bon chemin, quels sont les bons commandements qu'il demande de moi, et pas tout ce que le monde veut des fois proposer. Et quand je vis selon ce que Dieu me demande, forcément au bon, je serai heureux. Le Seigneur nous aide à vivre de cette manière-là, et moi je vous souhaite tout le bonheur du monde avec le Seigneur. On va prier. Seigneur, merci parce que autrefois sans toi, nous vivions dans ces mirages, avec la pensée de ce monde, de gagner beaucoup d'argent, d'être célèbre, enfin, tu connais tout ce que le monde propose et qui finalement nous fragilise, nous rend triste, voire même pousse certains dans des dépressions, le suicide. Seigneur, le monde, évidemment, c'est le prince de ce monde qui le met en place, qui le fait vivre et qui trompe chaque personne. Mais ce qui est triste aussi, Seigneur, de voir dans l'Église que des gens trompent aussi par de fausses promesses, par de fausses guérisons, par l'appât du gain, et cela évidemment nous attriste et doit aussi t'attrister. Mais merci pour cet épître à Timothée qui nous rappelle que nous devons conserver la saine doctrine, l'apprendre, la chérir, Seigneur, l'aimer, la comprendre, l'assimiler, la méditer aussi au quotidien pour pouvoir ensuite vivre selon tes préceptes et selon ce que tu attends de chacun d'entre nous. Seigneur, tu connais nos tentations dans l'argent, dans peut-être bien d'autres domaines, il n'y a pas que de l'argent, et de nous aider à vivre heureux en voyant les mirages de notre vie et à nous placer dans ta réalité, Seigneur. Merci parce que tu es notre sécurité, tu es celui en qui on peut se confier et tu es aussi celui qui peut nous apporter absolument tout. Tu as créé ce monde, Seigneur, et à toi rien n'est impossible. En Jésus-Christ. Amen. Amen.